Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Je suis ravie d'accueillir dans cette émission spéciale Quartier Libre où on va parler, il va être question du Japon aujourd'hui, le Japon à l'honneur et c'est d'actualité puisqu'il y a effectivement tout ce mois de février 2015, couleur Japon, et je suis ravie d'accueillir trois invités pour cette émission spéciale. Donc, je vais commencer par les femmes. Miharu Aoki, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans notre studio de Fréquence Mistral Digne. Bien sûr, Françoise Denoyer, bonjour.
Bonjour.
Et puis, Marc Timi, président de l'association Taiko Bashi.
C'est ça. Bonjour.
Oh, bonjour. Alors, je ne sais pas encore trop dans quel sens on va commencer, mais en tout cas, on va faire connaissance avec une passion commune, en tout cas pour Françoise et Marc, par rapport au Japon. Alors, si vous pouviez nous dire, qu'est-ce qui vous a mené à créer cette association il y a quelques années déjà ?
Oui, c'était déjà en 2003, donc ça fait en effet quelques années. Cette association avait été créée à Digne-les-Bains, avec des amis, des passionnés, un petit groupe au début qui avait envie de faire venir un peu le Japon ici. Et donc c'est vrai qu'on l'avait fondée en 2003 avec Françoise. On a fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités culturelles. Le but de l'association, c'est de promouvoir la culture japonaise par des événements culturels et puis essayer de créer des liens avec le Japon. Voilà, donc on n'est pas particulièrement une association dinoise, même si on est implanté localement. On est une association Haute-Provence-Japon. Donc on a fait des choses un petit peu sur tout le département et aussi parfois au-delà.
Vous avez visité régulièrement une partie du Japon?
Oui, oui, oui. En 2007, donc après avoir réalisé quelques événements culturels donc sur la région. Le premier, je rappelle, c'était une saison au Japon en 2004 sur Digne. Voilà. Et donc après, nous sommes partis en 2007, tous les deux. Ça a été notre premier voyage et on était accompagnés d'un de nos amis, hein, des piliers aussi de l'association, qui est enseignant à l'université. Et on est partis à Troyes découvrir donc ce pays du soleil levant pour lequel on nourrissait une passion et qu'on connaissait déjà, mais avec notre regard extérieur de Français. Et je dois dire que arriver là-bas, ça change tout. Bon, c'est un peu galvaudé de dire qu'on est sur une autre planète, mais c'est vrai qu'on a un regard, nous, occidental, avec des clichés.
Alors, par exemple?
Ah, beaucoup de clichés. Bon, évidemment, quand on parle Japon, on a des images. On pense toujours, évidemment, les cerisiers, les geishas, éventuellement la gastronomie aussi. Mais le Japon, c'est tout autre chose. C'est à découvrir. Et voilà, c'est pour ça que les événements culturels servent à ça.
Donc, vous avez eu un coup de cœur tout de suite en étant sur place?
Oui, c'est vrai que, en fait, moi, je m'étais un petit peu préparé au voyage parce que, comme toutes les passions et des fois un peu tous les fantasmes, on a peur de s'y confronter un jour ou l'autre. C'est-à-dire que, pour moi, le Japon, c'était une passion depuis l'enfance, une passion que j'ai eue en regardant des films à la télé, en lisant des livres, en m'intéressant à l'esthétique japonaise. Et puis, l'association Taiko Bashi, créée en 2003, nous a permis de découvrir aussi le Japon. On a reçu beaucoup d'artistes, on a organisé beaucoup de conférences, de spectacles. Et donc, ça permettait d'appréhender le Japon, mais à distance, malgré tout. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu préparé, je m'étais blindé. Honnêtement, je m'étais dit, pour mon premier voyage au Japon, je vais être déçu. Voilà, à trop vouloir l'idéaliser, à trop vouloir le fantasmer. Je m'étais dit, tu vas être déçu. Et puis, le problème, entre guillemets, c'est que j'en suis revenu encore plus enthousiaste que ce que j'étais avant. C'était loin d'être une déception. Et ça a renforcé la passion. Puis ça a permis de continuer ensuite de faire d'autres voyages après pour ma part. Certains professionnels en particulier, j'ai eu aussi des opportunités en ce sens qui m'ont permis aussi de découvrir le Japon autrement.
Alors, vous avez appris la langue ou comment vous vous êtes débrouillé pour cette première fois au Japon? Et dans quelle ville
Quand on est arrivé, le Japon au départ, c'était pour nous, c'était Tokyo, Kyoto, et puis on est descendu au sud, à Kumamoto. Mais on ne parlait pas la langue, on connaissait les civilités. Et puis au Japon, on parle très peu français et anglais. Hein.
Oui.
Voilà, c'est Miaou qui peut nous le confirmer. Donc on s'est débrouillé, mais c'est vrai qu'on avait notre ami donc Jean Lagan, qui donc professeur à l'université, qui lui avait déjà fait 7 séjours au Japon et parlait déjà un peu le japonais.
Oui, très bien.
On a eu la chance aussi d'avoir un interprète en anglais. Hein, voilà. Donc on a beaucoup parlé anglais nous au Japon, énormément. Et voilà ce qui est arrivé. Je veux juste rappeler aussi que bah, effectivement, moi-même, quand j'ai mis le pied au Japon, pour continuer la question de tout à l'heure, mm-hmm. Je suis allée, en ce qui me concerne, avec mon regard de journaliste, et j'étais très détachée.
Oui, pardon, Françoise.
Non, je ne
vous ai pas présentée en tant que journaliste aujourd'hui. Oui, journaliste, bien sûr, depuis de longues années.
Je le dis au passage, parce qu'en fait, j'y suis allée avec ce regard assez détaché, un petit peu, peut-être un peu moins passionné, un peu moins dans le fantasme. Et je dois dire que j'ai été complètement absorbée et alors là, enchantée.
Alors, on va mieux faire connaissance aussi avec Miaru Aoki.
Oui.
Alors, je sais que vous étiez donc, vous avez fait partie des premiers événements couleur Japon, puisque vous avez animé un stage, une initiation à la cuisine japonaise.
Oui, c'est ça.
Et où vous avez fait le plein de nouveaux adeptes qui vous demandent maintenant une suite.
Oui, en fait, oui. Et dimanche dernier, j'ai fait le cours de cuisine. Et oui, on a bien réussi. Et maintenant, il y a pas mal de Français qui sont intéressés aux cuisines japonaises. Et ils demandent de refaire les cours de cuisine. Donc, oui, pour moi, c'est, voilà, j'ai mission accomplie. Vraiment, j'ai fait découvrir la cuisine, une partie de cuisine japonaise.
Alors, est-ce que je peux avoir, j'ai pas pu assister à ces cours, mais quels sont les plats typiques
Ce qu'on a fait dimanche dernier, c'était des maki sushi, c'est-à-dire c'est le petit rouleau aux algues. Et donc, ce qu'on peut trouver un petit peu au supermarché aussi aujourd'hui. Et donc, on a roulé, du riz avec un peu de poisson. Et autour, on met un trait par des algues.
Mm-hmm.
Voilà. Donc c'est typiquement japonais et c'est assez populaire maintenant.
Est-ce que ça s'apparente au sushi?
Oui, c'est une sorte de sushi. Ouais, exactement. Mm-hmm. Ouais.
Donc ça a bien marché et vous êtes maintenant prête pour donner des cours régulièrement.
Ce que je souhaite, à partir de peut-être en mars, en avril, parce que je vais retourner au Japon fin de ce mois-ci. Donc après quand je suis revenue, je voudrais lancer mon projet.
Donc là, vous êtes venue à Digne depuis combien de temps et dans quel contexte?
Depuis fin de l'année
2014.
Mm-hmm. Et bon, c'est la vie, donc voilà, individuellement, donc la vie privée.
Mm-hmm.
Et voilà, j'ai déménagé à Digne-les-Bains.
À Digne, donc vous habitez ici, mais vous allez repartir régulièrement au Japon
Non, c'est juste pour voir ma famille.
D'accord.
Une fois par an, et réellement, je rentre. Mais
d'accord.
Sinon, non, je reste tout le temps à Digne-les-Bains.
Et vous avez été bien accueillis. Vous connaissiez Marc Timmy et Françoise Denoyer?
Non, c'est par hasard. C'est par connaissance, donc on m'a présenté fin de l'année.
Oui, c'était un hasard.
Qui fait bien les choses.
Je crois que les Japonais appelleraient ça peut-être DAI. Une rencontre un peu inattendue, mais c'était peut-être pas un hasard. Et puis on était très heureux parce que je ne crois pas me tromper en disant que Miaru est la seule ressortissante japonaise habitant dans le pays dinois. Donc on est très content de l'avoir trouvée. Et puis on est aussi très heureux de sa disponibilité et qu'elle ait rejoint la manifestation qu'on préparait au mois de février qui s'appelle Couleur Japon autour de la culture japonaise et qu'elle nous ait proposé avec talent, rigueur d'organisation aussi de préparer au pied levé ces ateliers de cuisine qui font partie aussi de la culture japonaise.
Pour répondre aussi, pour poursuivre la question de tout à l'heure par rapport à la langue, bah, entre-temps, Marc a appris le japonais.
Voilà, c'est bien ce que j'avais cru comprendre à l'interview.
Souvent, il y va souvent, mais pour des obligations professionnelles. Mm-hmm. Donc maintenant, il parle mieux japonais. Et donc, j'en profite aussi pour dire que Miharu donne des cours de japonais. On a une japonaise qui donne des cours de japonais sur le pays d'Inoua, enfin sur Digne maintenant. Mm-hmm. Voilà, donc
Oui, avant, en fait, moi, j'habitais sur la Côte d'Azur. Mm-hmm. Et puis, je travaillais avec une collaboration d'entreprise. Donc, je donnais les cours particuliers. En même temps, je donnais les cours de japonais dans une association franco-japonaise. Donc, oui, mon travail, c'était ça. Mais maintenant, voilà, je vais essayer de faire la même chose à Digne. Donc, voilà, ça sera bien s'il y a des personnes qui voudraient apprendre le japonais.
Bien sûr, il y aura certainement, il y aura certainement du monde. Vous parlez très très bien français.
Je ne sais pas moi-même, moi. Ouais. Je ne peux pas dire oui, mais moi, j'ai depuis que je suis en France, j'ai essayé d'apprendre au maximum.
Et la langue alors japonaise pour les Français en général, on n'est pas très très doué pour les langues étrangères. Est-ce que quand vous entendez Marc parler en japonais ça, vous comprenez bien ce qu'il dit?
Oui, bien sûr.
Il a un accent correct?
Oui. Comme il parle peut-être souvent au Japon et puis il a l'occasion de parler avec les Japonais, donc je pense que... Oui, il parle...
Quelle est la difficulté qu'on peut trouver par rapport à la langue?
Il y a beaucoup de difficultés, mais pour la pratique du japonais, le plus difficile, c'est quand même l'écriture. Parce que c'est vrai que pour lire couramment, par exemple, le journal, il faut apprendre à peu près 2000 kanji, 2000 idéogrammes. Mm-hmm. Et chaque idéogramme peut se prononcer de plusieurs façons différentes en fonction du contexte. Dans le pire des cas, jusqu'à 25 façons différentes pour un seul idéogramme. Bon, c'est pas le cas, la plupart, c'est 3-4 prononciations. Mais ça donne des choses un petit peu exponentielles. Et la véritable difficulté, c'est vraiment l'écriture, la lecture du japonais. Oui. Après, voilà, la langue japonaise parlée au quotidien, à l'oralité, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples qu'en français, puisqu'il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de genre. Voilà, pour les objets en particulier, les Japonais parfois ont du mal à comprendre pourquoi on dit un bureau et pourquoi on dit une table. Bon, qu'on dise un homme, une femme, voilà, bien sûr, c'est pas un problème, mais ça, c'est un peu un mystère pour les Japonais. Voilà, donc il y a des choses qui sont beaucoup plus simples en japonais au niveau des temps. Voilà, il y a le passé, les choses qui sont terminées, qui sont exécutées, puis il y a le temps présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de futur. Non. Donc, c'est nos futurs. C'est une petite blague, mais c'est intéressant aussi dans la perception de la mentalité japonaise, parce que c'est vrai que les Japonais ont une perception de l'éphémère, que la vie est très fragile du fait que c'est un pays qui est soumis beaucoup à des catastrophes climatiques, sismiques, etc. Donc, depuis toujours, ils ont cette conscience-là de la fragilité de la vie. Qui peut s'évaporer comme ça en quelques secondes ou se faner comme des pétales de cerisier. Et le fait de qu'il n'y ait pas de temps futur pour parler du futur tel que nous on le connaît, bon, ben voilà, nous des fois on peut dire aussi demain je vais travailler. Voilà, c'est intéressant, voilà, dans la compréhension de la mentalité japonaise. Et c'est vrai que la langue, en prenant une langue, on passe un palier dans la compréhension de la culture et des personnes.
Bien, voilà qui est très intéressant. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on va écouter, par exemple, de la musique traditionnelle. Et puis, bien sûr, après, on écoutera l'artiste qui doit se produire très bientôt. Allez, on écoute. Thank you.
Thank you.
On reprend donc cette émission Quartier Libre autour du Japon avec Françoise Denoyer, journaliste et faisant partie aussi de l'association Haute-Provence Japon, fondatrice, pardon Françoise, co-fondatrice avec Marc Timmy, président de l'association, et Miyaru Aoki, une toute fraîche japonaise, toute fraîchement venue à Digne. Et donc, il a animé un cours de cuisine qui a eu beaucoup de succès depuis la semaine dernière à l'Ermitage et qui propose d'ailleurs de continuer ses cours d'initiation à la cuisine japonaise et aussi de donner des cours de langue japonaise. Voilà. Alors, on va continuer. On parlait hors antenne, bien sûr, de ce jumelage avec la ville de Digne, Digne-les-Bains et Kamaishi. Un jumelage dont on se pose un peu des questions puisqu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'échanges comme ça doit être le cas avec une ville jumelée.
C'est vrai, c'est la réalité, elle est ce qu'elle est. Après, je tiens à préciser, voilà, notre association est une association Haute-Provence-Japon de manière large. Nous, on ne s'est jamais revendiqué du jumelage de Digne-les-Bains avec Kamaishi, même si Kamaishi fait partie du Japon, donc ça, évidemment, ça nous intéresse. Mais c'est vrai que la notion de jumelage appartient à la municipalité. Donc c'est un jumelage qui a été créé il y a une vingtaine d'années, je crois, à peu près. Ça avait été fait initialement grâce à la dalle aux ammonites. Je fais un petit historique rapide que je fais un petit peu en connaissance de cause, puisque Jean-Simon Pagès, qui était à l'époque directeur de la réserve géologique, géologue, m'avait un petit peu narré cette histoire. Donc c'est vrai que Kamaishi est une ville tournée sur la mer. C'est une ville aussi sidérurgique et qui, dans le cadre d'une transition, avait organisé un grand salon international de la mer. Dans ce sens, ils avaient été très intéressés par la dalle aux ammonites à Digne-les-Bains, qui est unique dans le monde. Hein, voilà. Et donc ils étaient venus à Digne-les-Bains, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais voilà, ils avaient envie d'acheter la dalle aux ammonites et de repartir avec sous le bras. Bon, enfin, c'est un peu trivial, mais disons que, en tout cas, ils avaient envie de faire quelque chose avec ça, et évidemment, si c'était pas possible de la transporter sur place au Japon pour ce salon international, le défi avait été relevé par la réserve géologique brillamment de réaliser un moulage grandeur nature. Ce qui était très spectaculaire, c'était une première aussi. C'était un défi qui avait été réalisé et qui a été exposé, monté sur place, voilà, à l'époque au Japon, par les membres de la réserve géologique dinoise. Donc j'espère pas trop être imprécis sur mes propos, mais bon, je me rappelle assez bien de cette histoire, donc hormis quelques détails. Voilà, donc ça avait eu un grand succès et Kamaishi a gardé cette dalle aux ammonites. Je crois qu'elle est toujours exposée dans un musée quelque part, dans cette ville. Et ils avaient été tellement satisfaits et contents de la relation qu'ils avaient établie avec la réserve géologique en particulier, qu'ils avaient souhaité faire un jumelage avec la ville de Digne-les-Bains, ce qui est extrêmement rare en France. Très peu de villes jumelées avec le Japon. Et c'était d'autant plus rare qu'ils étaient demandeurs de ce jumelage. Voilà. Il faut savoir que Kamaishi est une ville quand même beaucoup plus importante en termes de population que Digne-les-Bains.
C'est-à-dire, ça fait combien d'habitants ?
Je ne m'en souviens pas exactement, mais je crois que peut-être on est autour de Miyaru, autour de 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Je crois que c'est une ville qui est quand même bien plus conséquente que Digne-les-Bains. Hein. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'est pas dans les mêmes proportions en tout cas. Et c'était intéressant dans tous les cas, voilà, d'établir ce jumelage qui a été fait, qui a été acté à cette époque. Bon, c'était une époque où le Japon aussi était dans une période plus prospère au niveau, peut-être avant même l'explosion de la bulle économique. Je ne sais pas exactement l'année du jumelage, mais c'est fort possible. Et donc c'était vraiment intéressant enfin, personnellement, moi je crois que c'est toujours très enrichissant d'établir des jumelages. C'est très bien qu'il y ait des jumelages avec l'Italie, avec l'Allemagne et l'Espagne. Mais c'est vrai que c'est encore plus pertinent, je pense, que de faire des jumelages sur des destinations aussi lointaines, sur des civilisations, voilà, qui peuvent être plus mystérieuses, plus voilà, où on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément l'accès, on n'a pas forcément les clés. Et c'est toute la pertinence d'un jumelage de pouvoir nous permettre d'accéder plus facilement, voilà, à ce genre d'échange.
Donc il ne s'est pas passé grand-chose sur pas mal d'années, et si ce n'est que depuis le drame de Fukushima, il y a eu un rapprochement. Enfin, je sais qu'il y a des élus qui sont allés sur place.
Malheureusement, il a fallu qu'il y ait ce drame de Fukushima pour que des fois on se rappelle un petit peu qu'on était jumelé à une ville japonaise. Ouais. Je crois que c'est, je le dis comme ça, c'est peut-être un petit peu dur parce que. Mais je suis très sincère en le disant, parce que moi, je pense à mes amis japonais tous les jours, quasiment tous les jours. Voilà, et on avait un peu enfoui ce jumelage. Alors, à la fois, c'est compliqué aussi, un jumelage avec le Japon. C'est loin, la culture est différente, la langue aussi, mais rien n'est impossible, bien sûr. Et puis surtout, quand on a des ressources locales, des gens passionnés par le Japon, il y a, bien sûr, Françoise, je suis disponible pour ça, mais il y a aussi pas mal d'autres personnes qui ont vécu, qui ont habité, qui ont des liens avec le Japon, qui ont des choses intéressantes aussi à faire partager. Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est dommage que ce jumelage n'ait pas été aussi actif et que le tsunami, malheureusement, nous a rappelé cette réalité. Au point qu'à l'époque, je me souviens très bien, le drapeau japonais ne flottait pas sur l'hôtel de ville de Digne-les-Bains. Donc c'était dommage que malheureusement on mette un drapeau en berne qui ne flottait pas sur la ville. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu marqué. Mais en tout cas, ce qui était très important, c'est qu'il y a eu une émotion sincère après cette prise de conscience, ce drame, de la part de tous les Dinois, des élus aussi. Il y a eu une élan de solidarité remarquable, je pense vraiment sincère et utile, qui a été fait. Et heureusement, ça nous a permis de nous rappeler nos amis japonais, nos liens, nos jumelages. Et tout ce qu'on peut avoir en commun aussi.
Françoise.
Oui, non, mais je. Oui, donc ce malheur a permis. On dit toujours toute chose malheur est bon. Et voilà, ce malheur a permis finalement de se rapprocher depuis 2011. Donc c'est très récent. Et mais donc Taikobashi est toujours indépendant évidemment de ce jumelage municipal, sauf jusqu'à, bon, tout le monde sait, il y a eu changement de municipalité.
Donc voilà. Taikobashi, c'est le nom de l'association.
Taikobashi est le nom de l'association.
Donc c'est l'association qui est indépendante de,
complètement,
enfin qui n'a pas été aidée, subventionnée par la ville de Digne.
Jamais, on est à pratique, non. Jamais,
non,
on a jamais demandé de subvention et on a toujours fonctionné seul. Juste l'histoire, sur l'histoire, en 2004, on avait créé, donc on était parti à 7 samouraïs avec justement le directeur de la réserve géologique, la directrice de la médiathèque départementale, de la bibliothèque, à l'époque bibliothèque municipale, qui est devenue médiathèque, Daniel Blanc à l'époque, Jacqueline Hurch, les archives départementales, enfin voilà, on était nombreux, et on a donc réalisé 8 semaines de manifestations Japon sur Digne, et puis ensuite, on a continué, mais hors Digne en fait, hors les murs, puisque donc vraisemblablement il n'y avait pas un intérêt pour développer la culture japonaise.
8 semaines, c'est beaucoup quand
même. Ah oui, 8 semaines de manifestations, cérémonies de thé, expositions.
Et là, il y a eu du monde.
Ah, on a eu, alors dès le premier week-end, d'ailleurs, je pense que beaucoup s'en souviennent encore, on nous le demande encore, on nous en parle encore.
C'était en 2004.
C'était en 2004, automne 2004. Et le premier week-end était donc consacré au Palais des Congrès, à une exposition régionale de bonsaï, même nationale, puisqu'on avait des bonsaïs qui venaient d'associations des quatre coins de France, grâce à notre ami Claude Dominici, qui est un maître bonsaï et qui est le plus haut gradé d'ailleurs. Marc, je crois que c'est ça.
Oui,
hein,
le plus haut niveau, parce qu'il y a des grades aussi dans la culture bonsai. Du bonsai.
Ah oui,
je ne savais pas.
Voilà, un petit peu, enfin, en tout cas, dans l'expérience et les compétences. Voilà, donc, Claude Dominici, qui est un remarquable expert des bonsai.
Voilà, et pour donner une échelle de valeur, ce premier week-end, on a reçu 5000 visiteurs en 2 jours, donc, hein, sur cette exposition.
Dans quel lieu?
Alors, au Palais des Congrès.
Ah oui, 2000 visiteurs.
Donc le public a toujours été présent.
Toujours.
Voilà, c'est vrai que quand on dit que voilà, sur Digne-les-Bains, il y a des fois, il y a un manque d'intérêt pour le Japon. Par contre, pas de la part du public, ça c'est certain. Le public a toujours été présent, quelles que soient les manifestations. Donc là, c'était dans le cadre d'un festival. Mais il y a eu aussi des conférences, des manifestations organisées de manière ponctuelle, je veux dire. Le public a toujours été présent. Donc ça avait été très spectaculaire pour cette exposition de bonsaï, qui était organisée, co-organisée avec l'association... pas l'oublier, de bonsaï de Sainte-Tulle, voilà, hein, qui avait coordonné la partie de la gestion de l'installation des bonsaï, etc. Il y avait aussi un jardin japonais qui avait été installé avec les équipes techniques municipales à l'époque au centre du Palais des Congrès, qui avaient pris cette implication-là dans la manifestation. Voilà, donc c'était quand même très, très sympathique, très...
Donc un bon succès en 2004. Ouais, ouais, ouais. L'année d'après, vous avez voulu... Qu'est-ce qui s'est passé les années d'après ?
L'année d'après, il y a eu encore une très belle exposition qui a été faite sur Digne-les-Bains grâce au consulat du Japon. C'était le Genji Monogatari, une exposition autour de ce très, très célèbre conte, livre japonais. Il y avait eu des expositions de calligraphie, des démonstrations de cérémonies de thé, d'habillage de kimono, etc. Donc ça avait été à la salle de l'abbé Ferro. Ça avait eu un très très grand succès. Voilà, c'était un événement ponctuel qui avait duré quelques heures, mais c'était vraiment remarquable. Et puis bon, ensuite on a enchaîné d'autres manifestations, plus sur le pays de Fort Calquier en particulier. Voilà, on avait reçu des associations homologues japonaises, des artistes tels que Keisho Ono, virtuose du shamisen. Un défilé de kimono avec une association de...
Shamisen,
voilà, ouais, on va...
C'est un instrument, hein,
voilà. Tout à fait, c'est la guitare japonaise à trois cordes. Voilà, hein, donc le shamisen, c'est un instrument qui est joué par les geisha, mais pas que, aussi par d'autres instrumentistes virtuoses. Il y avait eu, voilà, un défilé de kimono également à Fort Calquier avec une troupe qui venait de Tokyo. Il y avait une démonstration de théâtre no avec la troupe de Maître Kano qui venait de Kumamoto. Donc on a beaucoup fait venir de japonais, d'associations, d'artistes japonais dans le département pour des événements ponctuels, et que ça soit à Digne-les-Bains, à Fort Calquier, ça a toujours eu beaucoup de succès.
Oui, Françoise.
Je dois dire qu'on a eu un accueil enthousiaste. Dès qu'on est allé voir Christophe Castaner et son équipe, hein, son service culturel, on a été accueillis à bras ouverts. Il nous a mis à disposition le théâtre et on a pu faire des choses, des soirées, enfin des spectacles magnifiques avec des artistes de qualité. Et on remercie encore, il faut le dire, hein, Christophe Castaner, le maire de Fort-Calquier et tout le monde, parce que vraiment... ça a été, on a pu vraiment très très bien travailler. On a fait de beaux moments de partage.
Bien. Moi, j'ai envie qu'on revienne aux traditions japonaises, puisque cette danse qui est venue, bien sûr, des drames. Est-ce que c'est toujours une danse qui est couramment dansée au Japon, le buto? C'est comme ça qu'on prononce le buto?
Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions de la voir, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai vu quand j'étais toute petite, une fois. Et après, donc, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup et ils pratiquent, mais...
D'accord. On ne va pas rester. Ouais. On parlait aussi du conte Kamishibai.
Oui,
donc
ça oui.
C'est quelque chose d'important qui fait des petits. En France, en tout cas, ça prend bien. Les conteurs ont envie de.
Oui, c'est ça passe souvent à l'école, aussi à la médiathèque, à la bibliothèque. Ouais, ça se passe souvent. Donc pour nous, c'est quelque chose d'habituel, très habituel. Et puis oui, c'est très populaire pour les enfants, je pense.
Et le théâtre no, oui, c'est ça.
Ouais, le théâtre no, c'est aussi quelque chose. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture japonaise. Après, je ne sais pas si c'est vraiment maintenant aussi populaire, en particulier auprès des jeunes, parce que c'est quand même un théâtre qui n'a pas bougé depuis 600 ans,
et oui.
Qui est dans son jus depuis 600 ans. Et alors, c'est vrai que quand vous assistez première fin de représentation de théâtre, non, vous prenez une forte émotion. Il y a quelque chose de très fort, il y a une vibration, voilà. Et puis, bon, après, ça peut retomber. Voilà, parce que il y a la lenteur, il y a des trains maudits comme ça, des choses répétitives dans la musique, dans les chants. C'est une forme de théâtre qui auquel on n'est pas du tout habitué. Donc, une fois qu'on a passé la très forte émotion de recevoir pour la première fois le théâtre au nom, après on rentre dedans, on en reste un petit peu extérieur. Voilà, donc. Au Japon, moi, j'ai vu beaucoup de Japonais qui dormaient devant le théâtre non.
Ah oui.
Voilà, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des vibrations qui passent malgré tout. Certainement.
Moi, j'aimais bien. Mais en fait, quand j'ai au Japon, je pense quand même au collège, au lycée, on apprend le cours de japonais, on apprend la scène de théâtre non et kabuki. Donc, après, une fois on a appris, on va voir un vrai théâtre. Et moi, je me souviens que c'était très intéressant pour moi. Et après, donc, je suis allée deux, trois fois les voir. Et donc, mais après, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui dormaient devant le théâtre aussi. Donc, mais parfois, oui, en France, ça passe. Il y a le no et le kabuki qui passent en France.
Absolument, et en particulier à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, il y a la seule scène de théâtre no fixe en Europe. Donc, avec la troupe de Maître Cano qui vient régulièrement pour des spectacles. Donc, ça, c'est une chance, en tout cas. C'est quelque chose à découvrir. Et juste un aparté, si. Pour découvrir aussi l'histoire qui est passionnante du théâtre no, il y a un livre qui est formidable qui s'appelle Le démon du no, qui est écrit par Nobuko Holberry. C'est une magnifique histoire. Elle a retracé la vie de Zeami. Zeami, c'est la personne qui a codifié, qui a porté le théâtre no à son paroxysme, à sa perfection. Donc on a assez peu d'éléments sur la vie de Zeami, mais elle a fait un travail d'historienne et elle a resitué le no, la vie de Zeami dans son contexte, dans l'époque. Et ce livre se lit vraiment comme une fresque que vous allez découvrir ce Japon médiéval. C'est un livre remarquable et j'ai une pensée pour Nobuko Holberry qui était la marraine de notre association quand on a débuté en 2003. Voilà, qui est une personne très attachante, remarquable, brillante, et qui a écrit un livre qui est absolument fascinant. C'est chez Gallimard, Le démon du no, Nobuko Holberry, que je conseille vraiment.
Marc Timmy, merci pour ces conseils. On va peut-être venir. Donc, pour continuer votre association, vous vous êtes un petit peu éloigné de Digne pour chercher le soutien ailleurs pour les autres manifestations qui ont suivi.
Oui, parce qu'une association, c'est des bénévoles avant tout. Donc même s'il y a beaucoup d'énergie, même s'il y a beaucoup d'idées, de compétences diverses qui se réunissent, si l'union fait la force, et ça a été le cas avec l'association Taikobashi, donc malgré tout, on a besoin quand même de soutien de collectivités, on a besoin de moyens concrets, parfois de subventions ou d'aides. Voilà, pour proposer des choses qui soient aussi accessibles au grand public.
Et ça, avec l'ancienne municipalité, vous avez eu du mal à avoir des subventions.
On n'a jamais eu de subventions avec l'ancienne municipalité. C'est pas grave.
Comment vous avez fait pour créer toutes ces manifestations ? Parce que ça a un coût.
Oui, tout à fait. Mais donc, on a eu des soutiens d'autres collectivités, de collectivités régionales en particulier. Parfois des fonds européens ou même des fonds qui venaient du Japon, grâce au ministère des Affaires étrangères japonais, grâce au consulat du Japon, qui nous a permis de recevoir des artistes en finançant les spectacles. Bon, ce qu'il fallait, c'est que les concerts ou les spectacles soient gratuits pour que le public puisse découvrir. Ça, c'était une exigence. Voilà, on n'allait pas encore en plus se faire de l'argent par-dessus. Ça aurait été absolument indigne. Puis grâce aussi aux bénévoles... grâce au soutien privé. En tant que président, j'ai aussi parfois abondé par moi-même quand c'était nécessaire. Mais ça a toujours été une grande satisfaction parce que c'est très satisfaisant de partager aussi la culture par des événements. Alors égoïstement, on en profite aussi. C'est un grand plaisir pour moi d'assister actuellement à Couleur Japon à Digne-les-Bains. Demain, il y a un atelier de calligraphie à la médiathèque. La semaine prochaine, il y a un magnifique...
Alors vous êtes initié aussi, vous ?
À la calligraphie, non pas à la calligraphie artistique, un petit peu à la calligraphie, puisque j'écris quelques centaines de kanji quand même. Mais
qu'est-ce que c'est ça ?
Kanji, c'est les idéogrammes. Donc la calligraphie, c'est écrire les idéogrammes, les kanji japonais. Bon, le terme calligraphie implique...
Parce que le haïku, c'est aussi japonais ? Ou je mélange encore ?
Tout à fait, oui.
Voilà, le haïku, oui. Les petits poèmes courts, c'est japonais, voilà.
Voilà, tout à fait,
absolument.
Oui.
Absolument. D'ailleurs, on aura la joie d'avoir
Alain Pudal,
le maître du haïku sur le département. On peut dire Alain Pudal qui va donner une conférence atelier mercredi prochain. Ce sera mercredi 18 février, donc à 14h, à la médiathèque. Et vraiment, il faut découvrir. Il permet, avec son regard et puis toute sa finesse d'homme de lettres, de poète lui-même. Voilà, c'est vraiment à suivre. Le haïku, oui, c'est...
Je crois que c'est l'année dernière qu'il y avait eu un travail fait avec des collégiens.
Oui.
Collège Gassendi, encore.
Au Collège Gassendi.
Ça avait bien marché. Les jeunes étaient très, très motivés.
Les enfants aiment beaucoup, entrent tout de suite dans cet instantané. Le haïku, c'est un instantané, comme la photo l'est du temps. C'est un instantané, c'est ce qui va marquer un instant de la vie. Enfin, ça c'est une, je pense, première définition. On peut peut-être le dire différemment, mais c'est assez extraordinaire. Et peut-être Miharu va nous dire quelque chose sur le haïku, je ne sais pas.
Non, mais tout à fait ce que tu as dit, c'était, voilà, c'est ça, je pense. Et voilà, 5, voilà, il faut 5, 7, 7.
Ouais, voilà. Nombre de vers, oui.
Nombre de vers,
syllabes,
cinq,
non
Nombre de pieds, voilà.
De syllabes, oui.
De syllabes.
5, 7, 5. Mais alors, il y a d'autres formes.
Est-ce que pour avoir le bonheur d'en avoir un en japonais?
Miharu-san, on a gagné chez nous.
Non, t'es qui passe.
On va faire la suite de l'émission en japonais, si vous voulez bien. Ce sera la première émission franco-japonaise sur Mistral.
Alors, si on peut avoir une pause musicale, on va y réfléchir et puis on la donnera après.
Eh bien, si vous voulez, on fait une pause musicale et après on vient au programme, justement, parce que c'est les rencontres cinéma Autre Regard au Pays du Soleil Levant, c'est déjà dès lundi.
Ah, oui.
Alors, je vous propose d'écouter l'artiste qui sera là. Je ne sais plus quelle date, le 20, voilà. C'est Mieko Miyazaki et Gyogan. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ?
Tout à fait, la rencontre du koto japonais avec le violon eru chinois, c'est absolument merveilleux.
Alors on l'écoute tout de suite. Thank you. Séjour au Japon par le biais de la musique de Mieko Miyazaki et Guo Gan. Alors, je ne sais pas si je prononce bien.
Parfait.
Marc Timmy, oui. Et on en était au haïku. Alors, on va y revenir quelques secondes puisqu'il fallait le temps que ça vous revienne. Alors, qui peut nous dire quelques haïkus en langue japonaise?
Oui, donc, ça n'est trop bien.
Oui.
Alors, Furuikeya. Kawazu tobikomu mizu no oto. Donc ça c'est très connu, haïku très connu.
Ouais.
Poète, il s'appelle poète. On dit.
Un poète, oui.
Poète, ouais. Voilà, il s'appelle Matsuo Basho.
Pouvez-vous nous le répéter bien dans le micro?
Furuikeya kawazu tobikomu mizu no oto.
C'est magnifique. Et est-ce qu'on peut avoir la traduction? Marc Timmy.
Donc la traduction, c'est la grenouille dans l'eau, plouf.
Voilà.
Voilà, le bruit de l'eau, voilà. Voilà, c'est un haïku un peu original qui pose un peu les bases du genre par un grand maître.
Alors, est-ce qu'on joue un grand maître ouais. du haïku ouais.
On peut en entendre d'autres ? Miaou ? Miaou ?
Bah, je vais citer un haïku en français
oui.
D'Alain Pudal, puisqu'on parlait d'Alain Pudal. Il avait écrit un livre remarquable qui s'appelait L'os du bonheur. C'est sans doute le meilleur livre que j'ai lu sur les haïkus. Donc c'est vrai que le haïku au Japon est beaucoup plus codifié qu'en France, puisque bon, bah, y a la forme 7-5, mais qui correspond plus à la langue japonaise. C'est vrai que voilà, c'est comme par exemple l'alexandrin en français, voilà, c'est quelque chose qui coule, qui va très naturellement. Donc. En France, c'est bien de se détacher un peu, voilà, de garder l'esprit, mais peut-être d'être un peu moins dans cette règle. Et c'est vrai que Alain Pudal explique très très bien.
On va juste décrire encore un petit peu Alain Pudal parce que nous on le connaît bien, mais pas tout le monde le connaît peut-être. Donc il était professeur de français au départ, mais c'était aussi un poète, compositeur. Il a écrit.
Il est spécialisé dans la littérature asiatique,
voilà,
en particulier dans les haïkus, voilà, dans cette forme.
Il donne aussi des cours de tai chi et c'est aussi une passion aussi, pour lui. Voilà,
c'est l'Asie en général. Voilà, il est aussi professeur de tai chi aussi. Donc c'est vrai que voilà, il y a un haïku qui me revient qui est très beau. C'est triste l'éternité qui ne connaît pas la magie des commencements.
C'est d'Alain Pudal.
Oui.
D'accord, merci. Le bonjour à Alain. Bien, et eh bien merci pour ces quelques haïkus.
C'était l'instant poétique.
Voilà. Oui, c'était le moment.
Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, mercredi.
Alors, mercredi.
À la médiathèque.
À la médiathèque, à quelle heure?
Alors, je regarde. Mon dépit, je ne l'ai plus en tête, pardon.
C'est la page du milieu.
Mercredi, donc, on sera le 18 à 14h à la médiathèque intercommunale.
Voilà. Je crois qu'il vaut mieux s'inscrire.
Il faut s'inscrire.
Voilà, il reste encore des places. Mais
et on s'inscrit en téléphonant à la médiathèque.
À la médiathèque, oui, bien sûr. Absolument.
Alors, j'ai envie de poser des questions, bien sûr, à notre invitée Miharu, qui est japonaise et qui est dinoise depuis peu de temps, pour notre plus grand plaisir. Quelle est l'éducation, le mode d'éducation au Japon que vous avez eu, petite fille, ou comment le système éducatif classe?
Moi, je suis allée à l'école publique jusqu'au collège. Mm-hmm. Donc oui, comme en France, c'est l'école, les garçons, il y a des garçons et des filles, donc l'école mixte. Mais peut-être, je trouve que c'est assez différent déjà, parce qu'il y a beaucoup plus de discipline peut-être.
Chez vous?
Oui, chez mm-hmm. nous. Ouais. Mm-hmm. Et l'école commence tous les matins à 8h à peu près, mm-hmm. et déjà le midi, on mange ensemble. Dans la classe, en fait, on prépare, donc il y a le repas à préparer déjà dans, souvent à l'école, soit il y a le centre de repas qui distribue à chaque école, soit il y a la cuisine à l'école, et voilà, c'est, donc ils font le repas. Après, on emmène dans la classe, et c'est les élèves qui s'occupent de préparer le repas. Donc on met, en fait, il y a un groupe qui sert mmh. le repas, et après donc tous les élèves qui prend le plateau, voilà, donc
c'est un vrai échange entre les élèves et l'enseignant aussi.
Et l'enseignant aussi, mmh. il est là, mais bon, il est voilà, donc on mange tous ensemble
dans la salle de cours.
Classe, voilà.
Voilà, salle de classe, voilà,
et voilà, donc après, donc ici on peut déjà apprendre comment, voilà, il faut s'habiller, il faut et après rangement aussi, tout le monde
participe au rangement, voilà. Oui.
Et le nettoyage, hein. On nettoie aussi la salle de classe,
En fait, oui, donc on termine à peu près 14h30, ça dépend de l'année, donc 14h30, mm-hmm. après plus grand, il termine à peu près 16h. Après il y a le nettoyage de classe, donc tous les jours on nettoie la classe. Mm-hmm. Après le cours. Et comme ça, on apprend qu'il ne faut pas salir parce qu'il faut nettoyer tous les jours. Même, moi, je me souviens que, voilà, même les toilettes aussi. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est des élèves qui nettoient tous les
D'accord.
jours.
Et ouais. très jeune, hein, à partir de très, très jeune âge, 7-8
ouais,
ans. Hein,
ouais,
voilà.
Ouais, troisième mm-hmm. année, okay. 8 ans, je pense, quelque ouais. chose comme ça.
Donc,
ouais.
il y a vraiment une responsabilisation et une conscience du collectif et de notre espace commun. Et voilà,
donc c'est toujours, c'est le sol nickel, c'est, voilà, c'est propre, c'est, ouais, c'est assez différent.
Et une discipline stricte, est-ce qu'il y a toujours, nous on avait ça il y a très longtemps, où on se levait à l'époque quand quelqu'un rentrait dans la salle, tous les élèves se levaient pour dire bonjour.
Oui, c'est vrai que même aujourd'hui, je pense que quand le professeur rentre dans la classe, dans la salle de classe, ouais. tout le monde se lève.
Voilà.
Et on dit voilà, bonjour ensemble. Mm-hmm. Je pense que ça n'a pas été changé parce que mm-hmm. voilà, ma nièce, mes neveux, mes nièces, ils vont à la même école que moi et puis voilà, ils apprennent comme notre époque. Mm-hmm. Donc je pense que ça n'a pas été changé.
Oui, ça fait partie un peu des clichés qu'on peut penser aussi. On parlait des clichés autour de l'émission. Je
par rapport
que,
à la discipline.
Par rapport à la discipline, elle est. En fait, c'est naturel aussi. C'est mm-hmm. quelque chose qui est très léger. On a eu l'occasion, donc, avec Marc, lors de notre premier voyage, d'être reçu dans une école. Nous, on appelle ça primaire. Enfin, ce sont des petits à partir de 6 ans, il me semble. Hein. Et après aussi dans un lycée. Et on a vu qu'il y avait cette discipline, cette tenue, mais en même temps une grande insouciance, une grande légèreté. Les enfants très souriants, et c'est quelque chose qui ne leur pèse pas. Ici, quelques années, décennies et siècles en arrière, la discipline, c'était aussi beaucoup de rigueur, et puis les punitions corporelles, on le sait. Tandis que là, c'est dans le bon sens.
Oui,
c'est
je
dans
pense
bon
que
sens.
C'est très naturel. Vraiment, depuis qu'on est petit, on est élevé, voilà. On est éduqué comme, voilà, comme ça. Donc, ça n'a été jamais forcé. Ça n'a, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose de naturel pour nous.
On a vu les petits faire servir les camarades à tour de rôle. On les a vus frotter le sol à genoux, voilà, et avec beaucoup de joie, beaucoup de le sourire. Ils le font vraiment très spontanément et c'est pas une corvée en fait pour eux, c'est normal. C'est tout à fait, c'est de l'ordre du normal.
Vous étiez dans une école de filles, mais est-ce que Il y a la mixité aussi dans les écoles.
En fait, moi, j'ai choisi par hasard l'école. Moi, j'ai choisi lycée des filles. Mais après, il y a bien sûr il y a l'école publique mixte, l'école privée voilà mixte aussi. Mais il y a l'école voilà que des filles, que des garçons, ça existe voilà encore.
Il y a même des universités que pour les filles. Au Japon.
Ouais, moi, je suis allée que des filles.
Voilà,
ouais, c'est vrai, université.
Donc, c'est très étonnant, mais il y a des mêmes.
C'est traditionnel.
C'est un choix.
Oui, oui, c'est le, voilà, c'est le choix. Après, il y a le. C'est pas fermé, c'est quelque chose. L'école. C'est pas l'école fermée, c'est juste, voilà, c'était traditionnellement, c'était que des filles, donc ils gardent cette tradition. Mais après, il y a l'accord avec, avec l'autre université, donc il y a le cours commun avec les garçons, donc il y a des garçons qui viennent, donc c'est pas quelque chose de fermé, c'est juste voilà, traditionnel.
Est-ce que je peux avoir quelques mots sur la geisha, en fait? Est-ce que c'est une geisha?
Geisha, peut-être. Pour nous, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose spécial, donc peut-être, je pense que c'est...
Encore un cliché, on est encore dans
voilà.
un cliché,
voilà.
on va aller faire
Alors,
exploser.
Faites sauter ce cliché de la geisha.
Je comprends pas pourquoi vous vous tournez vers moi en parlant de geisha. Non, c'est vrai que c'est un cliché parce que, évidemment, ça fait partie de l'iconographie du Japon, on pourrait dire. Évidemment, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ça n'existe presque plus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a encore quelques maiko à Kyoto, peut-être, mais quand on en voit dans la rue, généralement, ce sont des japonaises, des fois des occidentales qui se sont habillées en geisha, qui se déguisent en geisha. Donc, la geisha, c'est quand même, c'était en tout cas un mode de vie plus ou moins choisi. Voilà, une femme de compagnie qui doit être extrêmement bien éduquée, cultivée, raffinée. Voilà, après, et plus si affinité, mais c'est quand même, c'est un aspect du Japon, voilà, qui reste un petit peu comme les samouraïs, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus de samouraïs au Japon, tant mieux, sans doute, mais même s'il y a des valeurs qui peuvent être intéressantes dans la voie du samouraï, il y en a d'autres valeurs qui sont quand même un peu plus discutables, mais enfin bon, après, c'est une question de point de vue. Mais oui, ça fait partie de la mythologie du Japon. Voilà. Par contre, aujourd'hui, au Japon, tous les jours dans la rue, on voit des élégantes se promener en kimono. Et ça, c'est pas du folklore. C'est une réalité. Voilà. À côté de salarymen, d'employés de bureau qui sont en costume cravate, dans le métro, dans la rue, des femmes plus ou moins jeunes, voilà, font de leur quotidien un quotidien habillé en kimono. Et c'est pas du tout du folklore, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, voilà, quand on arrive au Japon, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude ici. Au Japon, la modernité vient pas forcément remplacer la tradition, elle s'y superpose. Et c'est intéressant.
D'accord. Merci. Est-ce qu'il nous reste plus qu'un petit quart d'heure? Est-ce qu'on peut venir au programme, puisque ça commence lundi, avec le cinéma, les rencontres cinématographiques? Un autre regard, et justement avec un premier film dont vous connaissez le réalisateur, c'est cet homme qui voyageait en autostop au Japon.
Oui, tout à fait. Ben, c'est un ami, tout simplement. On a passé notre baccalauréat ensemble à Digne-les-Bains. Voilà, donc,
un Dinois, donc.
Voilà, un ancien Dinois, un ami Pascal Cardeillac, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et je l'avais retrouvé un petit peu par hasard, un soir en regardant la télé un peu tard, c'était très tard dans la nuit même. Et puis je vois un reportage à la télé sur le Japon. Je me dis, ah zut, je peux pas aller me coucher, je vais regarder.
Dans le micro, Marc, oui.
Ah, oui, oui, je prends trop d'âge. Voilà. Et donc, je vois sur l'écran mon ami Pascal. On s'était pas vu depuis quelques années, depuis une bonne dizaine d'années, voire presque 15 ans. Et je vois mon ami Pascal qui fait du stop au Japon et qui raconte son aventure à travers un film. En tout cas, c'est passé à la télé sous forme de documentaire, 5 épisodes de 25 minutes. Ça s'appelle Sur la route d'Okinawa. Et ça raconte le pari fou qu'il a fait de traverser le Japon en autostop depuis le point le plus au nord, le Hokkaido, jusqu'au point le plus au sud, Okinawa. Donc 6000 km en autostop. Il faut savoir qu'au Japon, on ne fait pas d'autostop.
Voilà, alors ça, voilà.
C'est vrai que c'est rare de faire autostop. Oui. On ne voit pas. Ouais, on ne voit pas. C'est plus fréquent en France.
En France, oui.
En Europe, peut-être. Mm-hmm.
Ouais, ouais, ouais.
Donc ça va être intéressant. Ça va être un peu son parcours.
C'est son parcours. Il en a fait un documentaire, mais sous la forme d'un film avec une narration remarquable, avec beaucoup d'humour, aussi de naïveté, de détachement, parce qu'il connaissait pas du tout le Japon. Il a découvert comme ça, comme un aventurier qui part sur les routes en stop. Donc la première fois qu'il a dû faire du stop, c'était à Digne-les-Bains, sans doute. Et puis il a reproduit ça tout au bout du monde. Et son film est vraiment vraiment formidable parce que du coup, il a partagé le quotidien pendant 3 mois de beaucoup de Japonais qui l'ont pris en stop, des fois pour quelques minutes, des fois pour un petit peu plus longtemps, en l'invitant à la maison, en l'invitant des fois à vivre des aventures assez insolites. Donc voilà, c'est un voyage vraiment formidable. Je vous invite vraiment à venir à ce film d'ouverture lundi soir, lundi 16 février à 20h30 au Centre culturel René Char pour l'ouverture des Rencontres Ciné. Merci aux Rencontres Ciné d'avoir programmé ce film. Merci d'avoir invité Pascal Cardeillat qui sera présent pour rencontrer le public, discuter. Voilà, en plus c'est quelqu'un de très attachant, un très bon orateur. Donc vraiment j'invite les Dinois à venir à cette projection. Ce sera un moment rare et sans doute très pétillant. Ça va vraiment éclairer votre semaine et vous donner envie ensuite de vous replonger dans les grands classiques du Japon qui sont programmés par les Rencontres Ciné.
Françoise, oui.
Je crois ne pas me tromper en disant que ça a été un coup de cœur pour les Rencontres Ciné, pour Jean-Pierre Castagna, le président des Rencontres Cinématographiques, et Valérie Boudoir, à qui on avait donc proposé ce film. On leur en avait parlé déjà depuis un certain temps. Et vraiment, ils ont adoré. Et ça a peut-être été un des points de départ de l'idée d'en faire une thématique, une nouvelle thématique, parce qu'ils l'avaient fait il y a quelques années déjà, les Rencontres Ciné, thématique Japon, cinéma japonais. Et donc, ça a été sans doute un des points de départ. Ce point de départ qui a fait que naisse Couleur Japon, parce qu'après, ils nous ont appelés pour les rejoindre en tant que partenaire, et du coup on a élargi cette semaine cinéma qui est devenue une semaine d'événements, donc depuis le 3 février, du 3 au 28 février.
Et oui.
Voilà. Et je te laisse.
Voilà, alors on continue. Donc ça c'est dès ce lundi 16 février à 20h30 sur la route d'Okinawa de Pascal Cardeillac. Mardi 17 février, 18h, Le Conte de la Princesse Kaguya. C'est un film d'animation. Vous l'avez vu ? Pas nécessairement.
J'ai pas vu.
Encore,
j'ai lu le conte, mais qui est un conte très célèbre, traditionnel japonais.
Et ensuite, c'est super, j'ai pas la suite. C'est à 21h. Je vous laisse continuer. Alors, c'est le
21h Charisma.
Voilà.
De Kiyoshi Kurosawa. Un film de 1999. Alors, nos amis des Rencontres Ciné auraient pu en parler beaucoup mieux que nous. C'est un très très beau programme en tout cas. Ils ont choisi des perles du cinéma japonais.
Voilà, puisqu'il y aura aussi les films plus connus comme Les Amants Crucifiés, que je ne connais pas, mais je sais que Jean-Pierre Castagna en a bien parlé.
Oui, c'est un classique.
Voilà. Et puis, donc ça, c'est Les Amants Crucifiés. Je suis passée à mercredi. Est-ce qu'on a parlé du voyage de Chihiro ? Non.
Pas encore.
Pas encore. Alors, on va en parler tout de suite. C'est à 14h, mercredi 18 février. Et je vous laisse prononcer les réalisateurs parce que...
Et pour le voyage de Chihiro ?
Oui.
Ah, donc,
il s'appelle Hayao Miyazaki.
Merci.
Réalisateur très connu.
D'accord.
Voilà. C'est dessin animé.
Studio Ghibli, très, très célèbre au Japon. Et évidemment, les fans de manga et les autres connaissent, elle a réalisé beaucoup de dessins animés absolument extraordinaires, au point que Disney, je ne dis pas qu'il s'inspire, mais il regarde la production de Miyazaki avec beaucoup d'admiration. Voilà, tellement c'est remarquable le travail qu'il fait dans les dessins animés. Il vient de prendre sa retraite, même si, voilà, si, il laisse le studio en activité avec ses successeurs. Mais bon, bah, c'est dommage, mais il y aura d'autres histoires à raconter autrement.
Alors à 18h, Les Amants Crucifiés, 2.
Kenji Mizoguchi.
Merci. C'est en version originale sous-titrée, et tant mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux que des versions originales pour le cinéma en général. On peut reconnaître que souvent, quand c'est traduit, c'est une catastrophe. On a l'impression que le film n'est pas bon, alors que c'est simplement le doublage qui rate, qui gâche et tout.
Ça,
oui.
Ça fait beaucoup rire, Mia, apparemment.
Non, c'est vrai que souvent, il n'y a pas beaucoup de versions originales en France. Donc, parfois, quand du bien, et puis tu vois les films, même à la télé.
Traduit, oui.
Bah, parfois, voilà, c'est un peu choquant.
Plutôt, c'est choquant, oui.
Oui, ça n'a rien à voir. Déjà, la voix, de vraie voix de l'acteur. Et puis, voilà, quelqu'un qui c'est remplace, c'est vraiment différent. Donc,
c'est sûr. Il manquerait plus que ce soit doublé par quelqu'un qui a l'accent du midi. Alors ensuite, c'est Le Petit Garçon de
Nagisa Oshima.
Voilà. C'est un film de 1969 en version originale sous-titrée. Et puis jeudi 19 février, 18h, Le Fils Unique.
Yasujiro Ozu.
Voilà, elle nous donne juste le nom du réalisateur. Je traduis aussi pour les auditeurs. Et puis I Wish.
De Hirokazu Kore-eda.
Ben, facile, c'est facile le japonais.
Attendez, hein, chaud.
Voilà. Voilà donc un beau programme à voir. Ça commence donc dès ce lundi 16 février au Centre culturel René Char. Et puis sans oublier tout ce qui se passe à la médiathèque. Et puis, bien sûr, le concert. Ce sera pour la clôture, le concert, Marc Timmy.
Oui, c'est ça, c'est la clôture de la semaine cinématographique. Donc, c'est vrai que, bon, pour Couleur Japon, il y a les expos qui vont continuer à courir jusqu'à la fin février. Il y a aussi des animations à la médiathèque aussi, hein, jusqu'au 28 février. Mais ce concert qui est assez exceptionnel va clôturer la semaine cinéma. On a beaucoup de chance parce que Miyazaki Mieko est une virtuose du koto. Sans doute l'une des plus grandes spécialistes au monde. En plus, elle a la particularité de, bien sûr, de magnifiquement jouer la musique traditionnelle, mais aussi elle a une ouverture sur le jazz. Elle joue dans différentes formations de jazz. C'est très très étonnant, mais c'est remarquable. Et là, pour l'occasion, elle est accompagnée de... on va pas faire de géopolitique, mais elle est accompagnée d'un violoniste chinois, ce qui peut paraître assez étonnant quand on connaît parfois les tensions qui existent entre la Chine et le Japon, mais Gyogan est un virtuose de l'eru, le violon chinois, et ils forment un duo étonnant, vraiment une musique remarquable entre Japon et Chine, avec des surprises aussi. Ils interpréteront certains morceaux de musique française, mais j'en dis pas plus parce qu'il faut laisser un peu, faut pas éventer totalement le programme. Voilà, et ça va être un très beau concert, un très beau moment, et montrer que voilà que les cultures, même si alors quand on connaît l'Asie, on sait très bien tout ce que la Chine a apporté au Japon et réciproquement, toutes les interactions, les liens qui existent entre ces deux pays. On connaît aussi les différences, on connaît aussi une histoire qui peut être plus triste, plus compliquée entre ces deux pays, mais là, la musique est un langage universel et c'est remarquable de voir ce duo et ce qu'il propose et de montrer comme un espoir que il n'y a pas de fatalité et que tout ce qui a rapproché la Chine et le Japon depuis toujours se retrouve dans cette musique et peut se retrouver ailleurs. Même nos différences peuvent nous rapprocher aussi parfois.
Eh bien, je pense qu'on n'est pas loin de clôturer cette émission. Est-ce qu'il y a des choses importantes? Oui, Françoise, que vous avez envie de rajouter?
Rajouter quelque chose, oui. Par rapport au cinéma, remercier aussi la Ligue de l'enseignement qui a été aussi au départ avec les rencontres ciné de cette aventure, de cette nouvelle aventure Japon, avec 1000 enfants, 1000 scolaires, 1000 enfants qui ont pu à peu près voir des films réservés à leur âge, en fait, au cinéma pour enfants japonais pendant toute cette, pendant toute la semaine.
Toute la semaine prochaine, tous les après-midi, les projections sont pour les scolaires, 1 millier d'enfants touchés, comme dit Françoise, tout à fait.
Voilà, donc voilà, les enfants sont aussi de la partie. Et puis rappeler donc la médiathèque, voilà, tous les partenaires. Une fois encore, on est ravis parce que ça a été c'est une synergie entre de nombreux partenaires. Et donc la médiathèque, la Ligue de l'enseignement, les rencontres cinématographiques. Parler aussi de l'IDBL, l'école d'art, qui est là aussi. L'espace culturel multimédia de René Char, d'ailleurs, on fait des pliages de l'origami. C'est dans la semaine prochaine aussi. Il faut voir je vous renvoie au programme. Les rencontres, on l'a dit aussi. Évidemment aussi, le partenariat avec le consulat général du Japon, qui patronne en fait, qui parraine
sous le patronage, voilà,
et qui a prêté beaucoup d'objets à la médiathèque, et d'ailleurs le consul général sera là pour l'ouverture de cette semaine cinéma lundi soir. Il sera reçu officiellement par le maire de Digne lors d'une réception qui a été organisée.
À quelle heure ?
En mairie, à 19h. Voilà.
Mais en tout cas, il fera l'ouverture.
Et il fera l'ouverture le soir de cette semaine.
À 20h30, au rencontre ciné. Voilà, il sera présent pour lancer la semaine cinéma.
Et un mot, évidemment, sur la mairie. Merci aussi à la mairie, cette fois, d'avoir pleinement participé à cette belle aventure.
Eh bien voilà, on va se quitter là-dessus. L'origami, donc, c'est ce pliage fabuleux. C'est aussi quelque chose que vous apprenez à l'école ou pas?
C'est aussi l'école aussi, mais même à la maison, c'est quelque chose vraiment.
Ça fait partie de
notre culture,
de votre culture. Et c'est est-ce que c'est difficile?
Non, c'est pas difficile. C'est juste voilà, il faut mémoriser comment il faut plier, mais c'est voilà. Ce n'est pas difficile. Bon, certaines peut-être choses, c'est difficile, mais il y a des choses faciles pour les enfants. Et une fois appris, c'est appris.
Alors, juste avant de vous quitter, pour les personnes qui souhaiteraient vous revoir, Miharu Aoki, pour les cours de langue japonaise et de cuisine, est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une adresse mail, un site?
Sur le programme, c'est marqué aussi.
Oui.
Une partie du programme. Donc, il y a le numéro de téléphone.
Il se trouve où ça?
Alors, c'est Atelier Cuisine Japonaise.
Atelier, voilà, d'accord.
À droite.
Et juste là, il y a le téléphone, d'accord.
Ouais, le téléphone et numéro, l'adresse email aussi.
Alors, vous pouvez trouver le programme partout en ville, à l'office du tourisme, à la médiathèque, dans de nombreux commerces, et aussi sur le site internet www.taikobashi.net ou sur le site de la ville de Digne-les-Bains aussi. Vous trouverez le programme complet de Couleur Japon.
Eh bien, merci à tous les trois, Françoise Denoyer, Miharu Aoki et Marc Timi, pour nous avoir amenés dans les couleurs du Japon. À bientôt. Au revoir.
À bientôt. Merci.
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 kick back, smoke fat ass joint.